Bonjour à tous. Alors, nous allons attaquer aujourd'hui un des sujets un peu polémiques de la doctrine sociale, du moins de différentes manières dont elle peut être lue, on va dire. Donc, il s'agit d'un des cinq piliers que la doctrine sociale définit comme principe de réflexion de la doctrine. Donc, on rappelle la doctrine, ce principe de réflexion, norme de jugement, directive d'action. Et donc, ces cinq principes. On va les rappeler rapidement. Il s'agit du bien commun, de la subsidiarité, de la participation et donc de la destination universelle des biens. Donc c'est sur ce dernier principe que nous allons revenir. On rappelle d'abord que, dès l'origine, Basile de Césarée, que nous avons évoqué lors de notre première émission, je crois, ou la suivante, considérait déjà dès les premiers siècles que le pain appartenait aux affamés et le vêtement à qui était nu. Il considérait même que regarder la propriété privée comme un principe absolu revenait à commettre un vol. On va retrouver un peu cette vision des choses. Dans la même perspective, Ambroise de Milan déclarait que faire l'aumône aux pauvres n'est rien d'autre que leur rendre ce qui leur est dû. Mais le principe de destination universelle de biens en tant que tel, comme principe de réflexion, a été formalisé plus tardivement. Il engage à cultiver une vision de l'économie inspirée des valeurs morales. Et non simplement du profit, bien évidemment, qui permettent donc de jamais perdre de vue ni l'origine, ni la finalité des biens, de façon à réaliser un monde plus juste, plus solidaire, où la formation de la richesse, qui n'est pas condamnée en soi, il faut le rappeler, comme on l'entend parfois, mais cette richesse doit revêtir un rôle social pour avoir une fonction positive. Alors le principe, par le travail, l'homme, en utilisant son intelligence et sa force de travail, parvient en quelque sorte à régenter la création, à en faire comme sa demeure. Il s'approprie ainsi une partie de la terre, celle qui s'est acquise par son travail. C'est là l'origine de la propriété individuelle. Donc on voit bien que l'origine de la propriété individuelle se trouve dans le travail de l'homme. Nous verrons d'ailleurs le mois prochain que cette question du travail et de son rôle à la fois économique, social et même du point de vue du développement de la personne est très importante. La propriété privée, qui s'enracine ainsi dans le travail, assure, je cite le compendium dans son paragraphe 176, donc doit assurer à chacun une zone indispensable d'autonomie personnelle et familiale. Il faut les regarder comme un prolongement de la liberté humaine. Enfin, en stimulant l'exercice de la responsabilité, il constitue une des conditions des libertés civiles. Fin de citation. C'est là un point déterminant. Si la propriété privée est un élément essentiel d'une politique économique authentiquement sociale et la garantie d'un ordre social juste, cela ne signifie nullement qu'elle soit absolue. Elle trouve sa seule justification dans cette liberté et cette autonomie de l'action personnelle. Mais cette action, de son côté, doit bien évidemment être orientée vers le bien commun. Faute de cela, la propriété privée perd la plus grande part de sa justification. De plus, la doctrine sociale exige que la propriété des biens soit équitablement accessible à tous, de sorte que tous en deviennent au moins dans une certaine mesure propriétaires. Il faut y insister car on entend parfois le contraire. Et je cite encore une fois le compendium dans son paragraphe 177. La tradition chrétienne n'a jamais reconnu le droit de la propriété privée comme absolu ni intouchable. Au contraire, elle l'a toujours entendu dans le contexte plus vaste du droit commun de tous à utiliser les biens de la création entière. Le droit de la propriété privée est subordonné à celui de l'usage commun et à la destination universelle des biens. Et aussi dans son paragraphe 178, l'homme ne doit jamais tenir les choses qu'il possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui, mais les regarder aussi comme communes, en ce sens qu'elles puissent profiter non seulement à lui, mais aussi aux autres. Fin de citation. Enfin, on le comprend aisément à partir de l'ensemble de l'enseignement du Christ et des éléments ci-dessus. Le principe de la destination universelle des biens requiert d'accorder une sollicitude particulière aux pauvres et aux personnes dont les conditions de vie entravent une croissance appropriée et de réaffirmer dans toute sa force l'option préférentielle pour les pauvres. Alors, on va voir un peu le développement historique du principe, parce que si le cœur de la destination universelle des biens est présent depuis toujours dans l'enseignement de l'Église, son individuation, sa définition, sa formulation se sont faites progressivement. C'est d'abord dans le contexte polémique d'une argumentation contre l'option socialiste qui à l'origine visait à supprimer la propriété privée que Léon XIII évoque, je cite, le fait que Dieu a donné la terre au genre humain pour qu'il l'utilise et en jouisse. Ça, c'est dans Rerum Novarum, une encyclique dont on a déjà abondamment parlé. L'objectif de Léon XIII dans ce passage est non seulement de réfuter ceux qui prétendaient tirer de ce fait un argument contre la légitimité de la propriété privée, mais également de réactiver l'enseignement des pères de l'Église à la lumière de la catastrophique condition ouvrière au XIXe siècle. Marquant encore la différence de la doctrine catholique avec le socialisme, le Saint-Père précise dans le même texte, je cite encore, « Si l'on dit que Dieu a donné la terre en commun aux hommes, cela signifie non pas qu'ils doivent la posséder confusément, mais que Dieu n'a assigné de part à aucun homme en particulier. Il a abandonné la délimitation des propriétés à la sagesse des hommes et aux institutions des peuples. » On voit ici une nouvelle fois le lien qui existe entre la propriété privée et la liberté, puisque Dieu lui-même a laissé la tâche de fixer les limites à la sagesse des hommes. Il ne faut pas oublier que cette encyclique est publiée exactement 20 ans après la fin prématurée du Concile de Vatican I. Concile qui fut interrompu par les troupes du gouvernement libéral de Cavour, au moment où était en préparation précisément un décret sur le soulagement de la misère des pauvres et des travailleurs, lequel traitait successivement de la morale dans l'usage des richesses, des exigences d'un salaire minimum, du partage des bénéfices de l'entreprise, de l'allocation vieillesse et de la promotion des travailleurs. On comprend l'intérêt d'un gouvernement essentiellement dirigé par les industriels et la bourgeoisie d'arrêter le concile à ce moment-là. Pie XII reprendra le même thème dans le radiomessage qu'il publie le 1er juin 1941. Avant de traiter du travail et de la famille, le texte se penche sur l'usage des biens matériels. Le Saint-Père il le présentait comme, je cite, « une imprescriptible exigence que les biens créés par Dieu pour tous les hommes soient également à la disposition de tous, selon les principes de la justice et de la charité ». Les mêmes éléments seront repris tant par Jean XXIII dans Master Magistrat ou par Paul VI dans Populum Progression 1967. Il reviendra à Jean-Paul II de le définir clairement ce concept dans Sollicitudo Rei Socialis en 1987, où il le présente comme, je cite, « principe caractéristique de la doctrine sociale chrétienne » et affirme sa conviction que, je cite encore, « les biens de ce monde sont à l'origine destinés à tous ». C'est un principe auquel il fera maintes références par la suite. Depuis lors, toutes les présentations systématiques de la doctrine sociale de l'Église incluent la destination universelle des biens dans la liste des principes fondateurs. C'est donc le compendium dont nous avons déjà parlé dans son chapitre 4. Jean-Paul II explicitera encore la destination universelle des biens dans Gaudium et Spes, où l'on lit ce développement que nous avons déjà mentionné en partie. Je cite. Quelles que soient les formes de la propriété adaptées aux légitimes institutions des peuples, selon les circonstances diverses et changeantes, on doit toujours tenir compte de cette destination universelle des biens. C'est pourquoi l'homme, dans l'usage qu'il en fait, ne doit jamais tenir les choses qu'il possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui, mais le regarder comme commune, en ce sens qu'elle puisse profiter non seulement à lui, mais aussi aux autres. On comprend à la lumière de ces enseignements répétés du magistère qu'il puisse y avoir une opposition apparente entre le droit de propriété et le principe de destination universelle des biens. Mais, contrairement à ce que l'on entend parfois dans la bouche d'économistes qui se disent catholiques, il est clair que pour la doctrine catholique, on ne saurait parler de principes de même niveau, entre lesquels il faudrait trouver une sorte de compromis. Tous les textes qui traitent du rapport entre les deux affirment nettement que la destination universelle des biens doit prévaloir sur le droit de propriété. C'est très clair, par exemple, dans Populum Progressio, où Paul VI précise, je cite, « Tous les autres droits, y compris ceux de propriété et de libre commerce, y sont subordonnés. » Et il invoque à l'appui de cette affirmation les grands théologiens, notamment Saint Ambroise, dont nous avons parlé, que nous avons acheté donc en début d'émission, qui déclarait « Ce n'est pas de ton bien que tu fais largesse au pauvre, tu lui rends ce qui lui appartient, car ce qui est donné en commun pour l'usage de tous, voilà ce que tu t'arroges. La terre est donnée à tout le monde et pas seulement aux riches. » Donc Saint Ambroise lui-même. En citant ainsi un père de l'Église du 5e siècle, Paul VI montre bien que ce principe s'enracine dans la plus ancienne tradition et n'a rien d'une innovation récente. Jean-Paul II est tout aussi explicite dans la Borène Exercès. La tradition chrétienne n'a jamais soutenu que ce droit de propriété comme un droit absolu et intangible. Au contraire, elle l'a toujours entendu dans le contexte plus vaste du droit commun de tous à utiliser les biens de la création entière. Le droit à la propriété privée est subordonné à celui de l'usage commun à la destination universelle des biens. on ne saurait être plus clair. Donc après, on va voir un peu les différentes modalités d'application de ce principe, hein, qui ne va pas sans difficulté par ailleurs. Le principe de destination universelle des biens est en lien de façon dynamique avec la notion de travail humain comme source de la richesse et également avec la notion de propriété privée comme sphère d'autonomie de la personne. Mais le magistère élargit le champ d'application aux autres formes de propriété. Ainsi, le compendium précise dans son paragraphe 180, je cite, « Il ne faut pas oublier les formes traditionnelles de propriété. La propriété individuelle n'est pas la seule forme légitime de possession. » L'ancienne forme de propriété communautaire revêt également une importance particulière. Bien que présente aussi dans les pays économiquement avancés, elle caractérise particulièrement la structure sociale de nombreux peuples indigènes. C'est une forme de propriété qui a une incidence si profonde sur la vie économique et culturelle et politique de ces peuples qu'elle constitue un élément fondamental de leur survie et de leur bien-être. Fin de citation. Mais même si ces formes alternatives de propriété tendent plus naturellement à la sauvegarde du bien commun, elles sont également soumises au même principe, destination universelle des biens. De même, le développement récent de la propriété dite intellectuelle, qui touche aujourd'hui de nombreux aspects du développement économique, en relève également. Le paragraphe 283 indique ainsi, je cite, « La propriété privée et publique, ainsi que les divers mécanismes du système économique doivent être prédisposés en vue d'une économie au service de l'homme, de sorte qu'ils contribuent à mettre en œuvre le principe de la destination universelle des biens. » C'est dans cette perspective qu'apparaît l'importance de la question relative à la propriété et à l'usage des nouvelles technologies et connaissances qui constituent à notre époque une autre forme particulière de propriété d'importance non inférieure à celle de la terre ou du capital. Ces ressources, comme tous les biens, ont une destination universelle. Elles aussi doivent être insérées dans un contexte de normes juridiques et de règles sociales qui en garantissent un usage inspiré par des critères de justice, d'équité, de respect et des droits de l'homme. Les nouveaux savoirs et les technologies, grâce à leur énorme potentialité, peuvent fournir une contribution décisive à la promotion du progrès social, mais risquent de devenir source de chômage et d'accroître le fossé entre les zones développées et les zones en sous-développement, si elles demeurent concentrées dans les pays les plus riches ou entre les mains de groupes restreints de pouvoir. » Fin de citation. On voit, alors que ce texte date du début des années 2000, que la doctrine sociale est un outil vraiment pertinent, puisqu'on, entre les lignes, on voit la situation aujourd'hui actuelle, en particulier de ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire des groupes qui possèdent essentiellement de la propriété de type intellectuel et qui concentrent toujours davantage la richesse et le pouvoir. De façon complémentaire, la doctrine sociale s'intéresse également à la situation dans les pays moins développés au plan économique. Ainsi, le Concile Vatican II consacre dans Gaudium et Spes un assez long développement à la question éthique et politique que pose l'existence dans certains pays pauvres de domaines ruraux étendus et même immenses, médiocrement cultivés ou mis en réserve à des fins de spéculation, ce qu'on appelle les latifundia de manière classique. Mais de plus, depuis le Concile, cette situation justement de concentration des terres, qui paraissait être un signe de retard, s'est paradoxalement étendue dans les pays du Nord. En France, en 2018, 20% des terres agricoles appartenaient à des sociétés anonymes, avec des surfaces moyennes bien supérieures à la norme. Qui plus est, le phénomène est en accélération constante, et les surfaces en exploitation également. Cette concentration pose des problèmes cruciaux en termes de sécurité alimentaire pour tous les pays, et donc y compris le nôtre. En outre, elle va directement à l'encontre du principe de destination universelle, puisqu'un nombre de plus en plus restreint de personnes est propriétaire du sol. Mais de plus, l'usage de ces biens est le plus souvent orienté vers la recherche exclusive de profits rapides, au détriment de différents paramètres environnementaux, sociaux, etc. Exemple assez extraordinaire, aujourd'hui Bill Gates, le patron de Microsoft, est le premier propriétaire foncier des États-Unis, avec environ 110 000 hectares de terres agricoles, soit environ une surface équivalente à la moitié du Grand-Duché du Luxembourg. Pour faire un saut dans l'actualité brûlante, il faut savoir que les fonds d'investissement américains possédaient avant la guerre près de 30% du territoire ukrainien. Devant cette situation, il n'est donc pas étonnant que le Conseil pontifical déclare « Pour la doctrine sociale, le processus de concentration de la propriété de la terre est considéré comme un scandale car il s'oppose nettement à la volonté et au dessein salvifique de Dieu, dans la mesure où il nie à une très grande partie de l'humanité le bénéfice des fruits de la terre. » Ainsi, déjà pour Pie XII, déjà le droit de propriété qui devait redevenir universel pour que soit respecté le droit à l'usage des biens et de la terre, Donc il s'agissait d'étendre au maximum ce droit de propriété. Ainsi, dans son radiomessage du 24 décembre 1942, il estimait que ce droit s'est traduit par, je cite, « l'obligation fondamentale d'accorder une propriété privée autant que possible à tous ». Conception évidemment diamétralement opposée à l'objectif affiché aujourd'hui par le Forum économique mondial, dont la formule phare de l'édition 2019 était « vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Je rappelle que ces radiomessages, dont j'ai fait déjà mention à deux reprises, sont deux événements qui se sont déroulés pendant la guerre, qui sont quasiment l'équivalent de lettres encycliques, dans la mesure où effectivement il y avait un problème matériel de diffusion des lettres encycliques, et que le Saint-Père a utilisé ce système de radiomessages pour faire passer donc des messages de grande importance. Le compendium insiste particulièrement sur le point donc du développement maximum de la propriété privée. Dans son paragraphe 300, il est écrit, je cite, « Dans certains pays, une redistribution de la terre est indispensable dans le cadre de politiques efficaces de réforme agraire afin de surmonter l'empêchement que la grande propriété improductive, condamnée par la doctrine sociale de l'Église, constitue pour un développement économique authentique un frein. Les pays en voie de développement peuvent enrayer efficacement le processus actuel de concentration de la propriété de la terre en affrontant certaines situations qui apparaissent comme de véritables problèmes structurels. Car on ne compte plus les carences et les retards au niveau législatif en matière de reconnaissance du titre de propriété de la terre et en lien avec le marché du crédit, le désintéressement envers la recherche et la formation agricole ainsi que les négligences à propos de services sociaux et d'infrastructures en zone rurale. » Bon, on le voit, ce paragraphe est bien sûr très orienté en direction des pays en développement. Mais on voit bien que, de façon assez paradoxale, comme je disais tout plus haut à propos de la concentration de la terre, par exemple, la perte de services sociaux dans les zones rurales est aujourd'hui un problème qui touche les pays développés, particulièrement le nôtre, où l'on sait par exemple qu'en termes de couverture médicale, les zones rurales sont particulièrement désavantagées. Donc la réforme agraire devient ainsi non seulement une nécessité politique, mais une obligation morale, car sa non-application dans les pays pauvres entrave les effets bénéfiques qui dérivent de l'ouverture de marché et en général des occasions profitables de croissance que la mondialisation actuelle peut offrir. Fin de citation. Ce phénomène de concentration des terres que nous venons très rapidement d'évoquer s'est déroulé de façon parallèle avec l'industrialisation. On sait par exemple que le développement industriel de l'Angleterre au XVIIIe et XIXe siècle s'est accompagné d'une spoliation des paysans anglais et écossais et de la concentration déjà de la propriété foncière. Ainsi, George Ensor écrivait dans un livre publié en 1818, hein, on remonte au tout début du XIXe siècle, je cite, « Les grands d'Écosse ont exproprié des familles comme ils feraient cercler de mauvaises herbes. Un homme est vendu pour une toison de brebis, pour un gigot de mouton et pour moins encore. » Lors de l'invasion de la Chine septentrionale, le Grand Conseil des Mongols discuta s'il ne fallait pas extirper du pays tous les habitants pour le convertir en un vaste pâturage. Les nombres de landlords écossais ont mis ce dessein à exécution dans leur propre pays contre leurs propres compatriotes. C'est cette expropriation massive qui a contraint les populations rurales, justement d'Angleterre et d'Écosse, hein, à rejoindre les villes manufacturières comme Glasgow ou Manchester, pour travailler dans les conditions terribles dans les usines, souvent détenues d'ailleurs, par les mêmes investisseurs qui avaient acquis les terres sur lesquelles ils vivaient de manière immémoriale. C'est donc fort logiquement que la doctrine sociale s'est attachée à distinguer l'économie de marché, qu'elle nomme plus justement économie libre, du capitalisme proprement dit. À propos de la question du rôle positif ou négatif de l'économie libre, la doctrine répond, je cite, Si, sous le nom d'économie de marché, on désigne un système économique qui reconnaît le rôle fondamental et positif de l'entreprise, du marché, de la propriété privée et de la responsabilité qu'elle implique dans les moyens de production, de la libre créativité humaine dans le secteur économique, la réponse est sûrement positive. Mais, si par économie de marché on entend un système où la liberté dans le domaine économique n'est pas encadrée par un contexte juridique ferme, qui la met au service de la liberté humaine intégrale et la considère comme une dimension particulière de cette dernière, dont l'axe est d'ordre éthique et religieux, alors la réponse est nettement négative. Fin de citation. C'est pourquoi le magistère a depuis longtemps prôné la participation des travailleurs à l'œuvre commune. Le compendium indique à cet effet, je cite, « Le rapport entre le travail et le capital trouve aussi une expression à travers la participation des travailleurs à la propriété, à sa gestion et à ses fruits. C'est une exigence trop souvent négligée, qu'il faut au contraire mieux mettre en valeur. Chacun, du fait de son travail, a un titre plénier à se considérer en même temps comme copropriétaire du grand chantier de travail dans lequel il s'engage avec tous. Une des voies pour parvenir à cet objectif pourrait être d'associer le travail dans la mesure du possible à la propriété du capital et de donner vie à une série de corps intermédiaires à finalité économique, sociale et culturelle. Fin de citation. Sur ce point, il est intéressant de se souvenir d'un discours du général de Gaulle en 1968, après les événements qui ont secoué le pays, dans lequel il renvoyait dos à dos les systèmes communistes et capitalistes. Il disait ainsi: du point de vue de l'homme, la solution communiste est mauvaise. Pour enchaîner aussitôt en déclarant: seulement voilà, la propriété, la direction, le bénéfice des entreprises dans le système capitaliste n'appartient qu'au capital. Alors ceux qui ne le possèdent pas se trouvent dans une sorte d'état d'aliénation à l'intérieur même de l'activité à laquelle ils contribuent. Non, du point de vue de l'homme, le capitalisme n'offre pas de solution satisfaisante. Il y a une troisième solution, c'est la participation. Donc on voit que le chef de l'État avait puisé directement dans la doctrine sociale les idées qu'il développait dans ce discours. Alors ici, il faut faire une petite incise sur un sujet assez délicat. C'est la question de la théologie de la libération. Alors c'est un sujet en soi qui mériterait quasiment une émission en tant que telle, mais on va l'aborder ici parce que très souvent, les tenants de la théologie de la libération sont appuyés sur ce dont nous avons parlé précédemment, c'est-à-dire d'une part la destination universelle des biens et d'autre part l'option préférentielle pour les pauvres. Alors cette doctrine est née justement dans les années 60, on y revient, et elle est contemporaine du discours que nous venons d'évoquer. Mais à l'inverse du principe de participation qui prône en fait la collaboration entre les propriétaires et les ouvriers, la théologie de la libération promeut la lutte des pauvres contre les riches. C'est cette direction très inspirée en fait du concept marxiste de lutte des classes qui a conduit le magistère à la condamner. Il faut toutefois dire à la décharge des promoteurs de cette doctrine qu'elle est apparue donc en Amérique latine, donc dans cette période des années 60, dans la période qu'on a dite, et que cet ensemble de pays se distinguait alors par des conditions de vie catastrophiques pour les plus pauvres et des régimes politiques qui étaient mis régulièrement en place depuis l'étranger, qui étaient le plus souvent extrêmement répressifs de tous les mouvements de contestation sociale. Si la colère était justifiée, elle a égaré les tenants de cette doctrine. Pour l'Église, il ne peut s'agir de lutter contre des personnes en tant que telles, mais de lutter contre l'injustice. Toutefois, le pape François a réhabilité un certain nombre de prêtres qui avaient été précédemment suspendus du fait de leur engagement dans cette doctrine, en prenant précisément en compte le contexte extrêmement conflictuel qui était propre à cette époque. Il est enfin un dernier exemple d'application du principe de destination universelle des biens, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Il s'agit de la question environnementale. Benoît XVI, par exemple, exprimait dans son encyclique Caritas in Veritate, au numéro 48, la conviction que, quand nous affirmons que Dieu a destiné les biens de la création à tous les hommes, il faut inclure dans tous les hommes ceux des générations à venir. Je cite: l'environnement naturel a été donné à tous par Dieu et son usage représente pour nous une responsabilité à l'égard des pauvres, des générations à venir, de l'humanité tout entière. Nous devons avoir conscience du grave devoir que nous avons de laisser la terre aux nouvelles générations dans un état tel qu'elles puissent, elles aussi, l'habiter décemment et continuer à la cultiver. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette question environnementale dans une émission qui lui sera dédiée, et particulièrement d'étudier la grande encyclique environnementale du pape François, Laudato si, qui s'intéresse donc particulièrement à ce sujet. Pour conclure notre propos, on peut rappeler les éléments clés qui régissent la relation entre propriété privée et destination universelle des biens. Premièrement, le principe de destination universelle des biens est antérieur et supérieur à la propriété privée de par son origine. La terre et tout ce qu'elle supporte a été donné par Dieu à tous les hommes, comme nous l'apprend la Genèse. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle, et Dieu les bénit, il leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc, injonction destinée à l'ensemble du genre humain. Donc la propriété privée, elle, est d'institution humaine. Ses modalités sont fixées par la loi civile. Toutefois, le magistère rappelle avec insistance le lien qui existe entre propriété privée et liberté. La principale justification de l'appropriation de certains biens, c'est qu'elle permet la libre activité de l'homme. C'est pourquoi l'Église encourage la généralisation de la propriété privée. La limite de ce droit est donc logiquement le même que pour tout acte humain. La légitimité de l'appropriation se perd quand la libre activité ne vise pas au bien commun. Mais aujourd'hui, ce double impératif appelle une poursuite de la réflexion. En effet, on peut se poser concrètement comment faire appliquer ce principe. Bon, il a certes été violé de tout temps, plus ou moins gravement, mais dans le contexte de la mondialisation, l'inégalité de répartition des biens de la terre est devenue visible et de plus en plus visible. La conscience de ce scandale plus vive, et ce d'autant que la même mondialisation a permis une concentration toujours plus importante des richesses dans les mains de quelques-uns, on l'a dit. Aujourd'hui, il y a quelques milliardaires qui possèdent des richesses supérieures à certains pays dans leur totalité. Donc on estime donc que l'Église ne devrait pas se satisfaire d'affirmer avec force ce principe, mais qu'elle devrait fournir également des indications sur la manière de le faire respecter. Bah, ces indications, en fait, existent, mais elles restent, elles aussi, très générales. Et si certains le regrettent, c'est à tort. En effet, comme on l'a dit, et comme la doctrine sociale nous l'enseigne de manière permanente, c'est aux laïcs catholiques de prendre en main ce sujet de l'application concrète au moyen de l'action politique suivant les modalités que les temps exigent. C'est la juste distribution des attributs du gouvernement de la cité des hommes, à l'Église l'auctoritas et aux politiques la potestas. Cette répartition, on va dire, était présente dans la lettre célèbre du pape Gélas Ier à l'empereur Anastase, qui est écrite en 494. Comme on le voit, ces principes sont toujours présents dans l'enseignement de l'Église et ne sont certainement pas des nouveautés. Donc, la potestas relève du politique. C'est aux catholiques de s'investir dans ce domaine, comme le magistère nous y invite de manière régulière. Voilà, je pense que nous avons fait le tour, autant qu'il est possible, dans le temps qui nous est imparti, de ce problème.
Alors, Philippe Comte, nous avons Monique avec nous. Bonjour Monique.
Bonjour Sandrine, bonjour monsieur. Merci infiniment de cette prestation qui est vraiment très très importante. Mais effectivement, la terre appartient à tout un chacun et Dieu veut que chaque être humain sur cette terre ait manger, se loger, etc. Et lorsque nous voyons les GAFA, comme vous en parlez, qui disposent de richesses incommensurables et que d'autres n'ont absolument rien, cela fait bondir, effectivement. D'autre part, moi, ce que je voudrais dire également, c'est que comment est-ce que nous pouvons arriver à cette égalité dont Dieu nous demande de faire des efforts pour l'obtenir lorsque les personnes sont très différentes au niveau de l'amour du travail. Il y en a qui aiment le travail, d'autres qui l'aiment moins. Donc, comment répartir les qualités de chacun afin que chacun, qu'il soit vaillant ou moins vaillant, puisse se vêtir, se nourrir, c'est-à-dire subvenir à ses besoins primaires. Parce que les besoins secondaires existent, nous en avons la preuve, parce qu'il y en a beaucoup qui ont d'énormes besoins secondaires, mais les besoins primaires, tout un chacun y a droit. Bon, les besoins secondaires, certains aussi également. Chacun est content de voir une pièce de théâtre, etc. Mais ce n'est pas vraiment vital. Mais le fait de dormir dans la rue, comme je vois à Paris, par exemple, dormir dans la rue, être dans la rue, ne pas se chauffer, mais c'est quelque chose de terrible s'il n'y avait pas les associations, à commencer par les associations catholiques, secours catholiques, et beaucoup d'autres, l'abbé Pierre, etc. Mais comment arriver à cette justice lorsque les êtres sont tellement différents. Vous en avez qui sont des bourreaux de travail et vous en avez d'autres qui n'ont pas du tout, du tout envie de travailler. Je vous donnerai pour exemple, il y a 6 ans de cela, j'étais en ville et il y avait devant ma grande surface un monsieur qui était assis. Et donc, je suis sortie avec mes provisions. Et j'ai vu ce monsieur et je lui ai donné certaines de mes provisions parce que je pensais qu'il en avait besoin. Et il m'a répondu, « Mais madame, je suis assise ici, j'étais commerçant, mon entreprise fonctionnait très très bien, c'est moi qui ai décidé d'être dans la rue, personne d'autre. J'ai voulu faire cette expérience. » Alors, vous voyez, les gens sont vraiment très différents. Donc, comment arriver à une égalité alors que les gens sont très 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 différents? C'est la question que je pose.
Oui, alors merci de votre question. Alors je vais revenir sur le fait que vous avez utilisé deux mots. Et en fait, c'est deux mots qu'il faut vraiment disjoindre, hein, qui recouvrent deux réalités complètement différentes. Un, c'est l'égalité. Deux, c'est la justice. Ce que l'Église demande pour tout le monde, c'est la justice. C'est-à-dire, effectivement, donc il y aura forcément certaines formes d'égalité. Comme vous le disiez, plus on travaille, plus on a de retour. Plus on a de retour sur son travail, ce qui est logique. D'ailleurs, il y a des phrases de saint Paul là-dessus, sur qu'il ne faut pas manger le pain qu'on n'a pas produit, que lui-même avait travaillé pendant ses missions d'évangélisation. Donc il s'agit bien de faire cette distinction-là. Il ne s'agit pas d'instaurer une forme d'égalité. L'Église n'utilise jamais ce terme-là, mais d'instaurer une forme de justice. Après, bien sûr, pour un certain nombre de personnes qui, pour des raisons diverses, hein, ça peut être des questions, ça peut être des moments d'accident de la vie, de choses comme ça, qui tombent dans l'extrême pauvreté. Bon, là, il s'agit bien sûr de permettre d'assurer le minimum vital, même dans la mesure où ils ne travailleraient pas. Bon, ça, il s'agit de l'organisation sociale à mettre en place. Et là, encore une fois, il s'agit vraiment de la question politique. Et la question politique, l'Église fixe des principes, donc ce principe de justice, entre autres, et ce principe de destination universelle des biens, qui est à la base de cette distribution juste des biens, mais elle ne dit pas exactement quelle solution on doit mettre en œuvre. Est-ce que c'est des associations, comme c'est le cas actuellement? Est-ce que c'est l'Église, en tant que telle, comme institution, comme ça a été très longtemps le cas au Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution? Ou est-ce que c'est l'État lui-même qui doit intervenir, distribuer un revenu universel, etc.? Ça, encore une fois, ce que le pape Léon XIII parlait de la sphère qui a été laissée à la sagesse des hommes. Bon, la sagesse des hommes, aujourd'hui, on peut malheureusement en douter un petit peu. Mais en tout cas, c'est ça le principe. C'est-à-dire que l'Église fixe le principe, les orientations. Ça relève de l'auctoritas, de la partie, on va dire, justement, du conseil, de la direction à donner. C'est aux politiques, c'est aux laïcs, ensuite, d'œuvrer pour mettre en œuvre concrètement, dans chaque pays, dans chaque unité politique, on va dire, les solutions les plus adaptées. Encore une fois, il s'agit que ces solutions répondent ensuite aux principes. Donc, encore une fois, un principe de justice et pas d'égalité.
Oui, c'est ça. Un principe de justice et non d'égalité. Vous avez tout à fait raison. Oui. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur. Vous avez un petit peu répondu à ma question, mais je pense que c'est très, très difficile, cela. Parce que, au niveau politique, je pense que cela pourrait se faire. Mais comme moi, vous savez très bien que les politiques sont toujours influencées d'une façon ou d'une autre par tel ou tel parti, et qui ne sont pas forcément les partis qui adhèrent aux enseignements de Dieu. Voilà. Donc, c'est la grande question.
Bah, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, ces principes qui sont des principes donc, qui ont comme base la doctrine chrétienne, l'enseignement du Christ, plus le christianisme recule dans un pays, moins on a de chances de les voir appliquer. C'est quasiment mathématique. Donc effectivement, on voit en France aujourd'hui un recul de la culture chrétienne, de la foi bien sûr, et de la culture chrétienne parallèlement. Du coup, on s'éloigne progressivement de ces principes et on a des sociétés qui sont de plus en plus injustes. Donc il y a une espèce d'homothétie ou de parallélisme, on va dire, entre le recul de la culture chrétienne et le recul de la justice. Ça se voit assez facilement dans des pays qui n'ont jamais été chrétiens et où cette sollicitude pour les pauvres est beaucoup moins forte que dans nos pays tels que c'était historiquement. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est en train de reculer, finalement, en Occident également. Comme on le voit, quand j'ai parlé de la question rurale, ou de la question des services publics en zone rurale, etc., tout ça, des problèmes qui paraissaient propres à des pays, on va dire rapidement, du tiers-monde, qui n'étaient pas chrétiens, etc., commencent à arriver dans nos pays, en fait, en une espèce de retour à la barbarie dans les pays occidentaux, qui est parallèle au recul de la foi.
Oui, mais voyez-vous, vous avez tout à fait raison. Hier soir, sur une chaîne, bon, je ne vais pas citer la chaîne parce que je n'ai pas le droit, mais c'est une chaîne qui est réputée pour être catholique, à la télévision, et donc, il y avait un journaliste qui disait, d'après notre enquête, les catholiques d'aujourd'hui, donc les catholiques, c'est l'échelle de la France, n'est-ce pas? Et ça correspond à ce que vous dites, monsieur. Les catholiques d'aujourd'hui n'osent pas dire qu'ils sont catholiques. Si vous les interrogez, ah ben oui, je crois en Dieu, etc. Bon, je suis catholique, mais ils n'osent pas le dire. Ils n'affichent pas leur foi avec joie, avec espérance. Ils ne l'affichent pas du tout. Et, ils sont, c'est tout à fait dubitatif, c'est tout. Ils sont catholiques, oui, mais ils n'affichent pas leur foi. Et si on leur pose des questions, eh bien, ils sont assez évasifs. Alors ça, c'est terrible. Lorsque j'ai entendu hier soir l'information, eh bien, sur cette chaîne-là, c'est une très très bonne chaîne, et qui dit en fait la vérité de ce qui se passe. Alors, affolée d'entendre que les catholiques qui se disent catholiques n'osent pas dire oui, je crois en Dieu, je suis catholique et je crois en Dieu, je défendrai mes opinions. Eh bien non, d'après les sondages, non, la majorité n'est pas capable de dire cela.
C'est oui. Triste. C'est tout à fait triste. Et en fait, il y a un problème qui est assez similaire, et je dirais presque plus grave. Quand on interroge les Français aujourd'hui sur un certain nombre de valeurs, de croyances, etc., on s'aperçoit en fait que quand on compare, par exemple, les musulmans, les juifs, les athées, les catholiques, ceux qui convergent le plus au niveau des valeurs, ce sont les athées et les catholiques. Donc ça pose vraiment un problème dans le sens où aujourd'hui on a le sentiment que la foi catholique, sous la pression de ce qui nous a été raconté pendant longtemps, est devenue un problème purement personnel et n'a aucun impact au plan social, au plan collectif, sur les opinions, sur la vie des gens, sur un certain nombre de sujets. Voilà, donc c'est assez surprenant parce qu'en fait, à de nombreux endroits, par exemple même au niveau... on va dire électoral, dans des élections présidentielles, ceux qui ont voté le plus, comme la moyenne des Français, ce sont les catholiques. Alors que dans d'autres communautés, on va dire, on a eu des votes beaucoup plus différents, en fait, de la moyenne. Les catholiques ont voté comme la moyenne. Ça, c'est assez, assez étonnant. C'est-à-dire que vraiment, on se demande qu'est-ce que la foi change. Et là, c'est encore plus grave que le fait de ne pas oser. On va dire, pas oser aujourd'hui, c'est vrai que la pression sociale est très forte, hein, et que le catholicisme est attaqué de manière permanente, hein, sur différents sujets. Donc on peut admettre que les gens n'osent pas, etc. Mais le plus grave, en fait, c'est que même sur le fond de leurs opinions, ils sont très proches de la moyenne des Français qui sont agnostiques ou athées.
Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur.
Merci à vous pour vos questions.
La chadeau. Merci beaucoup, monsieur.
Merci, Monique.
Au revoir. Au revoir, monsieur.
Oui, alors nous arrivons au terme de l'émission. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire pour conclure?
En fait, je veux peut-être revenir rapidement sur ce que l'auditrice disait, enfin, sur les échanges qu'on a pu avoir, sur cette question de l'absence de différence entre les opinions générales des catholiques et la moyenne des Français, qui aujourd'hui est, bon, on va dire, très largement agnostique, dans le meilleur des cas, voire athée. Et que finalement, il y a très peu de différence sur beaucoup de sujets. Des sujets même assez fondamentaux, les relations, par exemple, entre la foi et la science. Dans d'autres communautés, on a des relations très différentes du cas général. Les catholiques, aujourd'hui, par exemple, sur cette question-là, ont tendance à dire, j'ai même entendu ça d'ailleurs dans un sermon une fois, c'est vrai puisque c'est prouvé scientifiquement. En fait, non, c'est vrai parce que c'est écrit dans la Bible. Et c'était pas vrai parce que c'est prouvé scientifiquement. Voilà, je voudrais terminer là-dessus.
Merci beaucoup, ça va nous faire réfléchir. À très bientôt.
À bientôt.
Merci. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Doctrine sociale de l'Église avec Philippe Comte. Aujourd'hui, nous parlions de la destination universelle des biens. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.